Monsieur Guylaine Yembo, bienvenue sur les antennes de Radio Kapi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Mafaki, et bonjour à vos auditeurs.
Alors, vous revenez fraîchement du Grand Équateur. Monsieur le ministre d'État, vous venez de lancer une campagne nationale de sensibilisation au deuxième recensement général de la population et de l'habitat dans le Grand Équateur. Quel est le message essentiel que vous avez transmis à la population par rapport à ce processus qui, pour rappel, intervient 42 ans après la première opération?
Nous avons commencé la grande sensibilisation, vous l'avez peut-être suivi. Nous avons pris les encouragements et les soutiens du président de la République en passant par les autres institutions de la République, le Parlement et d'autres forces vives de la nation, dont les confessions religieuses aussi où nous avons démarré. Alors il était temps maintenant de passer sur le programme des provinces. Donc là c'était les Grands Équateurs qui étaient sollicités comme première province pour nous accueillir. Donc ça s'est très bien passé. Donc le message essentiel, c'était bien évidemment que toutes les populations puissent être prêtes à se faire recenser. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est d'accompagner les recenseurs. Parce que vous savez, c'est une opération très importante, mais aussi très délicate, parce que 42 ans après, on ne sait même pas qui a participé à ça. Donc pour nous, on prend ça comme une première expérience. Mmh. Et donc, il faut que nous puissions solliciter toutes les forces vives de la nation pour qu'ils nous accompagnent dans ce processus et faire en sorte que ça puisse se dérouler convenablement et que ça soit un succès pour notre pays, en tout cas, de relever ce défi après autant d'années.
Monsieur le ministre, une telle opération, une vaste opération du genre, nécessite une mobilisation financière également, parce que ça fait 42 ans que le pays a pu organiser un tel processus. Alors, que dire sur les défis du financement? Pensez-vous disposer à ces jours des ressources financières nécessaires pour l'organisation du recensement?
Mais c'est ça la différence pour cette fois-ci, parce qu'on ne commence pas un tel processus sans avoir bouclé le financement. C'est un peu comme si vous construisez une maison et vous n'avez pas encore vos revenus. Après, la pluie viendra ou vous allez gâcher votre argent. Donc, nous avons pris les soins avec l'accompagnement du président de la République, l'initiateur du projet, et qui nous a accompagnés dans la table ronde, qui nous a conduit à mobiliser les fonds nécessaires avec des partenaires qui nous ont accompagnés. La République a mis à la disposition de ce projet des 30 millions de dollars que vous connaissez aujourd'hui, et les partenaires sont venus pour nous appuyer, pour boucher, comme je dirais, le trou, parce que en réalité, c'est un projet commun, parce qu'ils utilisent les données, ils ont besoin que la République démocratique du Congo puisse être dotée des bonnes données, et ça servira à tout le monde, parce que eux, dans leur projet, ils sauront dans quelle mesure ils sont en train de nous accompagner, de manière à évaluer l'impact réel sur les populations de la RDC. Et donc là, maintenant, nous sommes en train de déployer les processus, bien sûr. Nous allons suivre, nous continuons à suivre le dossier pour qu'ils puissent réaliser cette promesse, mais nous sommes sûrs que ça sera quelque chose de fait.
On sent que c'est un projet qui tient beaucoup pour le président de la République, il a eu à les relever. Mais à quelle hauteur s'élève l'engagement du gouvernement, monsieur le ministre?
Bon, l'engagement du gouvernement est total. Maintenant, sur le plan financier, j'ai dit, ça c'est déjà la part que le pays a mis à la disposition du projet, pas la moindre, parce qu'il faut savoir que c'est grâce à cette participation-là du gouvernement que nous avons démarré les processus. Mmh. Les processus ne commencent pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on entend parler du RGPH2, mais nous avons déjà commencé avec les revenus internes pour favoriser la phase préliminaire qui a été accomplie. Et là, nous arrivions à des dépenses colossales, donc il fallait nous faire accompagner. Donc l'État est dans un engagement total, en commençant par les présidents de la République lui-même, le gouvernement avec l'excellence madame la Première Ministre et tous les membres du gouvernement qui nous accompagnent dans ce processus ici. Donc pour vous dire que nous avons débuté, pour ne pas freiner la machine, nous voulons aller jusqu'au bout du processus qui est important pour nous.
Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez évoqué la table ronde qui est organisée avec les partenaires. Alors, dans ces recensements généraux de la population et de l'habitat, ces deuxièmes recensements généraux de la population et de l'habitat, quels sont les partenaires internationaux qui vous accompagnent?
Nous avons la Banque mondiale et la Banque africaine de développement qui prennent la grosse part. Et nous avons l'UNFPA, en français on dirait le Fonds des Nations Unies pour la population, qui est non seulement nous accompagne sur le plan financier, mais aussi, surtout sur le plan technique, parce que c'est l'agence spécialisée des Nations Unies dans la matière des populations. Et donc notre conseiller pendant tout ce processus. Nous avons l'UNICEF qui a aussi participé de manière concrète sur le plan financier. Il y a la Côte d'Ivoire qui a voulu nous donner les tablettes qu'ils ont utilisées à leur recensement. Il y a aussi d'autres pays qui attendent. Il y a des ambassades qui nous ont déjà contactés. Il y a certains qui viendront pour un accompagnement logistique. Donc, ils se sont prononcés. Donc, il y a quand même un engouement et nous, ça nous rassure et ça nous permet de voir enfin que ce projet puisse se réaliser et qu'enfin, la République démocratique du Congo, qu'on puisse avoir un chiffre pour la population et non pas autant des Congolais, autant des chiffres. chiffres, autant d'étrangers, autant de chiffres qu'on nous ramène. C'est une question de souveraineté nationale. Donc, il faut que les gens qui viennent dans notre pays, qui nous amènent pas nos chiffres à nous, mais que ce soit nous qui puissions les mettre à leur disposition.
Chers auditeurs, auditrices et internautes, bienvenue à vous qui venez à peine de nous rejoindre. Nous avons le plaisir, on va dire le bonheur, de recevoir, mais d'être reçus aussi par le ministre d'État, ministre du Plan et Coordination de l'Aide au Développement, Monsieur Guylaine Yimbo, qui nous reçoit dans son cabinet. Nous nous entretenons sur ces deuxièmes recensements général de la population et de l'habitat que le pays organise 42 ans après le tout premier recensement. Monsieur le ministre, il y a les défis sécuritaires dans ces processus qui se déroulent dans un contexte marqué par la recrudescence de l'insécurité dans l'est de la RDC, mais également au cœur de Kinshasa avec les phénomènes Mobondo par exemple. Comment les projets de recensement entendent-ils intégrer ces données dans son opérationnalisation?
Bon, dans ce genre de processus, on ne peut pas ne pas tenir compte de la situation du pays de manière générale. Déjà pour Mobondo, faut dire qu'on a quand même évolué. Donc, il y a eu un travail qui est fait au niveau du gouvernement, ce qui fait que la manière dont on a parlé hier, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Le grand paquet, on va dire, reste l'Est de la République, mais n'oubliez pas que le recensement, c'est une opération essentiellement locale. Donc, ce n'est pas des grands déplacements d'avions et tout ce que vous voulez. Ce sont des citoyens congolais qui sont dans leur zone d'opération, donc là où ils habitent. Ce sont des enfants, ce sont des frères et sœurs, des mêmes personnes qui vont faire ce travail-là. Mmh. Et puis, il y a plusieurs formules qui peuvent être utilisées dans le contexte sécuritaire. Mais sachez que pour nous, ce qui est important, c'est que nous comptons d'abord sur l'espoir de la paix avec le travail du président de la République et tous les gouvernements et toutes les personnes qui nous accompagnent dans cet exercice difficile. Nous voulons espérer que la paix puisse nous trouver avant qu'on puisse arriver au moins au dénombrement général l'année prochaine en juillet. Donc on a quand même encore un peu de temps. Mais si vraiment nous n'arrivons pas à réaliser dans les meilleures conditions, nous allons déployer la grande technologie d'aujourd'hui à la pointe pour avoir la même information et de manière précise dans la technologie que nous avons aujourd'hui. Comme je vous ai dit, nous sommes bien accompagnés en tout cas, mais nous voulons donner la chance à toutes les parties du pays de pouvoir opérer de manière classique comme dans tous les pays. Mais sinon, c'est les techniques qui sont utilisées ont été utilisées dans d'autres pays plus difficiles que les nôtres par rapport à la question sécuritaire, dont l'Afghanistan, l'Irak, Syrie, enfin, vous voyez. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous allons réaliser cette opération de manière satisfaisante.
Selon vous, quels sont les grands défis qui demeurent?
Pour nous, les défis, c'est d'abord d'arriver à sensibiliser chacun dans cette opération, d'arriver à enlever l'amalgame qu'il y a entre les recensements, l'identification, les processus électoraux. Nous voulons que les gens, tout le monde comprenne que le recensement, c'est une opération typiquement scientifique, inclusive. Donc nous voulons que tout le monde puisse y participer, opposition, pouvoir, religieux, enfin tout le monde doit être solidaire parce que c'est une question, comme j'ai dit, une question d'État et que tout le monde doit avoir ce souci de faire en sorte que la RDC soit mieux connue, que nous puissions maîtriser les chiffres pour nos populations, savoir qui est fragile, mais ils sont combien, les jeunes, on en parle majoritaire, mais combien exactement pour qu'on puisse en prendre charge. Dans les jeunes, quels sont les plus fragiles, quels sont ceux qui ont besoin des formations, de tel type ou de tel autre. Au niveau des femmes, il y en a combien? Des enfants, donc c'est toutes les analyses là dont nous avons besoin de manière précise à permettre une meilleure gouvernance de notre pays, prendre des bonnes décisions, parce que se développer c'est bien, mais se développer en ordre c'est mieux. Donc c'est ce que nous voulons, et nous voulons que les ressources qui sont devenues rares dans le monde d'aujourd'hui puissent être mieux utilisées. Et donc vous imaginez pas aujourd'hui, si on doit commander des vaccins même pour les enfants, c'est grave de ne pas savoir combien d'enfants il faut. Donc soit vous dépensez exagérément, soit vous recevez moins de vaccins, et donc il y a des enfants qui seront dans la situation de ne pas recevoir leur vaccin. Donc ce sont des précisions utiles. La route, la même chose, il faut avoir des bonnes routes, mais des bonnes routes, il faut maîtriser la densité des populations sur des surfaces bien précises. L'école des enfants, c'est la même chose. Il faut construire des écoles au nombre des enfants pour que ça soit des écoles de qualité. La même chose pour les soins de santé. Donc, tout ça, nous avançons, mais il faut qu'on avance mieux. Et je pense que les RGPH2 nous donnera des... Moi, j'attends ça avec beaucoup d'impatience et ça sera une fierté pour notre pays. Enfin, recommencer à fonctionner et prendre des décisions de manière très précise. Et ça ne s'arrêtera pas là, parce que nous travaillons pour consolider l'effort de notre pays pour que dans le futur, qu'on puisse désormais respecter les régimes de 10 ans, au moins, pour que nous puissions ne plus attendre 40 ans. pour faire la même chose.
Monsieur le ministre Guylaine Yembo, vous avez mis un accent particulier sur l'inclusivité. Il y a une autre donne non des moindres. Le pays disposerait de 7 millions de déplacés internes. Comment pensez-vous répondre à cette contrainte?
Alors, comme je disais, c'est très scientifique, les recensements. La méthodologie utilisée respecte les processus tels qu'il est conçu et voulu. Parce qu'il faut pas oublier que nous serons audités en fin de processus pour voir si tout ce processus a respecté les règles internationales. Et donc, il y a une phase que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est les recensements, donc la cartographie censitaire. Donc, qui précède les dénombrements que tout le monde appelle recensement. Bon, c'est aussi la carte, ça commence par la cartographie, qui permet donc de délimiter, donc de dépiécer le pays en morceaux. Et c'est chaque morceau-là que demain, donc je parle de juillet 2027, que les recenseurs vont pouvoir occuper chaque morceau du pays pour aller faire son recensement, pour avoir un espace limité, pour enfin que nous puissions être sûrs que la personne ne va pas s'éparpiller, mais va être délimitée. Même les matériels que nous allons utiliser, la tablette, va empêcher même les recenseurs de sortir en dehors de sa case. Dès qu'il sort, il n'a plus de connexion, donc il doit rentrer. Donc la cartographie va nous permettre de capter tout ce qui est. N'oubliez pas qu'on parle de recensement de la population et des lacs. Donc partout où on sait qu'il peut y avoir vie, va être capté.
Okay.
Et ça va permettre d'ailleurs de mieux connaître toutes ces personnes déplacées. Ils sont combien, ils sont où exactement. La même chose pour des réfugiés, ils sont combien, ils sont où. Donc vous voyez, on parle chiffres. Ça paraît pas très important pour les gens, mais tout commence par compter et ça commence par un.
Monsieur le ministre d'État, vous avez lancé officiellement le 1er juin 2026 le recrutement des agents pour la cartographie censitaire de ce deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Quelle évaluation peut-on faire 2 mois après?
Bon, je dirais que ça se passe très bien. C'est vrai que en passant par Équateur, on voit que les gens auraient souhaité qu'on en parle davantage. Bon, nous sommes en train de monter crescendo, mais nous sommes au-delà de nos espérances. D'ailleurs, nous sommes agréablement surpris de voir que des cartographes qu'on pouvait pas imaginer, il y en a plein, même à l'intérieur du pays. Là, nous avons, je crois, 98 000 enregistrés en ligne, s'il vous plaît. 98 000. Donc, nous avons bouclé les 2 juillet. Nous venons d'ouvrir la phase du dépôt physique des candidatures. Donc, ça a commencé depuis le 29 juillet. Donc, il va se terminer le 13 août. Et nous voulons que les gens n'attendent pas, surtout les jeunes, qu'ils attendent pas le 13 ou le 12 pour courir. Donc, mieux vaut faire ça maintenant. Alors, les endroits sont connus. Caritas nous représente dans les 145 territoires, donc dans les chefs-lieux des 145 territoires. Et puis, là où il y aura un peu plus de difficultés, nous avons le support, l'appui du ministère de l'Éducation et de la Nouvelle Citoyenneté, qui aussi va mettre en place leurs sous-divisions, qui vont pouvoir accompagner toutes les personnes qui viendront déposer. Et c'est là où on va saisir tout pour amener les données au niveau de Kinshasa. Et les gens ne doivent pas s'inquiéter parce que l'analyse, c'est que ceux qui ont déjà souscrit en online doivent éviter d'aller encore déposer les... Mais les jeunes qui n'ont pas eu la possibilité, parce qu'on a eu des cas, je crois que ça doit être au nord ou Bangui, où des jeunes se plaignaient beaucoup, ils n'ont pas pu s'enregistrer, mais c'était un problème de connexion, nous avons expérimenté. Donc, ils doivent aller courir vers les chefs-lieux des territoires les plus proches pour leur permettre de pouvoir s'enregistrer et donc de déposer leur candidature. La transparence est de mise, comme j'ai dit, c'est un processus sérieux, audité, et donc nous ne voulons pas que la RDC puisse rater cette opération, parce que, encore une fois, il ne faut pas qu'à la fin, on dise que cette opération a été faite, mais qu'elle ne respectait pas les règles internationales, alors que le recensement doit être reconnu sur le plan international pour que le chiffre soit pris en considération.
Monsieur Guylaine Yembo, vous êtes le ministre d'État en charge du plan et de la coordination à l'aide au développement. Avez-vous un message particulier à la fin de cet entretien pour la population qui est la cible principale justement de ces deuxièmes recensements général de la population et de l'habitat?
Mais écoutez, le seul message, c'est que chaque Congolais doit se dire ce projet est le mien et que je ne dois pas rater. Je dois me faire recenser. Et chacun qui doit se le dire, c'est faire recenser, c'est me faire connaître devant l'État congolais, savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais, pour que le pays puisse prendre en charge ma situation. Tout le monde faisant la même chose, je crois que nous allons réunir la meilleure information et donner les atouts au pays de prendre des bonnes décisions pour nous tous. Donc je crois que c'est les grands messages. Et au-delà de ça, accueillir toutes ces personnes qui viendront chez vous, à la maison, pour recueillir les informations, de ne pas avoir peur.
Mais parce que c'est gratuit.
C'est gratuit, c'est anonyme, je dirais. Donc, vous donnez votre nom, mais le nom n'est pas utilisé, parce que comme j'ai dit, ce sont les données qui seront utilisées. Mais vos noms ne vont pas apparaître, donc vous avez la liberté de dire ce que vous avez à dire, la vérité surtout. Donc, l'anonymat vous permet de dire la vérité et de faire en sorte que vous ne cachiez aucune information. Donc, si vous avez 10 enfants, 20, dites-le. Vous fonctionnez peut-être en dehors du système économique du pays, en informel. Mieux vaut informer encore les temps, au moins qu'on le sache, pour qu'on puisse prendre des mesures qui vont permettre demain à faire en sorte que toutes ces personnes qui travaillent dans le monde informel, nous avons besoin qu'ils remontent dans le monde formel, mais il faut qu'on les sache. Ils sont où, ils sont combien, pour qu'on prenne des mesures, que les gens ne puissent pas faire peur à nos compatriotes pour dire que non, ce sont des gens des fisqueurs, pour ceux qui ont peur, que ce soit pas les gens de ni la police ni aller accuser au niveau du gouverneur, mais que les gens puissent trouver l'opportunité d'aider les pays à les aider.
Monsieur le ministre, merci pour votre temps et surtout pour l'accueil et merci pour toutes ces informations qui sont très importantes et très utiles pour la population. J'espère que c'est la première fois, c'est pas la dernière.
Bien sûr que non, vous êtes les bienvenus quand vous voulez, nous sommes là pour ça. Nous ne sommes qu'au début, donc comme j'ai dit, nous montons crescendo. Nous voulons que les RGPH2, c'est comme ça que peut-être on va lâcher le mot recensement. RGPH2, pour nous, ça doit faire l'unanimité et jusque qu'on arrive à l'échéance, donc juillet, nous pensons que tout le monde va comprendre finalement et donc éviter des confusions. Ce n'est pas l'identification, ce n'est pas le processus électoral, c'est une opération scientifique et que tout le monde doit apporter sa pierre pour que ça soit réussi.
Et Radio Capi vous accompagne dans ces processus avec les partenariats aussi de nos collègues de l'UNFPA. Je tiens à remercier Paul Badianyama qui nous a aidé pour la prise des sons.